Avec l'histoire du crucifix retiré à l'Hôtel de Ville de Montréal, j'aurais aimé ça pouvoir en parler, mais malheureusement, Jésus n'a jamais fait de fauteuil roulant. Semble-t-il qu'il n'a même pas eu besoin de physio, le gars, et il est passé de ben magané à tout réparer.
Porta.
En compagnie de Jean-Sébastien Laliberté, que je salue, comment allez-vous, Monsieur Laliberté?
Je vais fort bien en ce lundi. Et vous, Luc?
Hey, ça va bien. C'est vrai qu'on est le 25 mars, faut le dire, pour ceux qui se demandent quel épisode on écoute. J'étais grognon dans le transport adapté, j'avais faim. Moi, j'aime toujours manger un petit quelque chose en bas. Puis là, bon, ça n'a rien à voir avec les taxis. Il est arrivé à l'heure, tout était beau. Premièrement, on ramasse une madame qui a décidé de manger dans l'auto. Un jour, on fera une discussion, une table ronde sur peut-on manger dans le transport adapté?
Et si oui, quoi?
Il y a une demi-heure à faire là-dessus. Après ça, on s'en va chercher un monsieur. Il avait oublié, lui. Alors, ça a pris à peu près 12 minutes. Et, pour finir, le chauffeur lui-même parlait au téléphone. Alors, plein de petites... Tu sais, des petites contrariétés, mais je suis quand même arrivé à l'heure. Vous dire qu'aujourd'hui, on va parler entre autres d'un gars qui vit au paradis des personnes handicapées au Québec, soit à Victoriaville. Il y a l'Office du transport du Canada qui veut du changement et ça donne bien parce que nous aussi. On va causer Unité 9, pourquoi pas. Et la maternelle 4 ans, bonne ou mauvaise idée pour les enfants avec besoins particuliers? Ça fait un petit moment qu'on voulait causer garderie, centre de la petite enfance et surtout, justement, un peu maternelle 4 ans. Est-ce que pour une clientèle particulière, c'est une bonne ou une moins bonne idée? Est-ce qu'on a déjà commencé à y réfléchir ou pas? Et pour en parler aujourd'hui, Véronique Lisotte, qui elle est adjointe coordonnatrice de Je me fais une place en garderie. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Ensuite, Marie-Josée Castonguay, qui, elle, travaille plutôt sur la rive sud comme coordonnatrice clinique et conseillère formatrice à l'intégration, à l'organisme, intégration sociale des enfants handicapés en milieu de garde. C'est vrai, hein, vous faites Longueuil. Faites-vous l'agglomération de Longueuil, Marie-Josée, ou juste Longueuil?
En fait, nous, on est un organisme communautaire provincial.
OK.
Donc, on travaille partout dans le Québec.
Parfait. C'est juste que j'avais les articles que j'ai vus, c'était des actions qui étaient sur la Rive-Sud, donc je pensais que ça se limitait à la Rive-Sud. Peut-être justement, respectivement, parlez-moi de vos organismes, leur mission, sans passer trop de temps, là, mais juste pour qu'on puisse un peu savoir qui fait quoi. Donc, tiens, commençons par celle à qui on vient de donner la parole, Marie-Josée Castonguay.
En fait, notre mission, nous, c'est on vise à favoriser et faciliter aussi l'intégration des services de garde des enfants qui présentent une déficience, une situation d'handicap ou des défis particuliers. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte du soutien auprès des éducatrices qui intègrent les enfants et aussi par le biais des formations et des animations aussi cliniques.
Ce sont les garderies? Il les demande ou les parents d'enfants?
Non, en fait, c'est les écoles.
Ah,
les...
OK. C'est vrai parce que c'est surtout nous, milieu de garde.
Ouais, exactement. Ouais, ouais. Nous, on s'inscrit plus au niveau
des... du midi, après l'école.
Exactement. Dans les milieux scolaires.
OK. Exactement. Donc, vous avez une palette d'âge assez large, là?
Oui, de 5 à 12 ans.
OK.
Oui, majoritairement de 5 à 12 ans.
Véronique?
Oui.
Vous faites quoi chez vous?
Donc, je me fais une place en garderie. Nous, on est davantage en 0-5 ans.
Plus jeune, c'est ça?
Plus jeune, exactement, 0-5 ans. C'est un organisme qui existe depuis au moins 25 ans, donc depuis 1994. Puis, je me fais une place en garderie comme mission vraiment de soutenir les familles dans leur processus d'intégration de leurs enfants en service de garde. C'est sûr que je dirais que les enfants... ont une déficience motrice, mais qui peut être associée aussi à une autre déficience. Il faut savoir aussi qu'on est en petite enfance, là. Sensorielle aussi,
oui, okay.
Effectivement. Puis ils sont petits encore. Hein. On n'est pas toujours dans le diagnostic. On a une approche beaucoup plus par besoin. Mais la présence, effectivement, de la déficience motrice doit être présente là, comme critère d'admissibilité à l'organisme.
C'est sûr qu'il y a plusieurs de mes questions qui vont se diriger vers Véronique. Et pourtant, c'est drôle, hein, parce que j'ai tout lu le dossier et j'ai pas fait le lien... Marie-Josée, que vous étiez avec les plus vieux,
oui.
Même s'il y a quand même des questions à se poser. Véronique, d'abord, bon, l'intégration, il n'y a pas de garderie spécialisée. Donc, automatiquement, si on veut soit travailler ou si on veut offrir à notre jeune une occasion de sympathiser avec d'autres jeunes, c'est dans un milieu dit normal.
Effectivement.
Okay.
Il y a des services de garde qui ont un nombre, je dirais, peut-être plus élevé là, à leur permis d'enfants qui peuvent accepter, qui ont des besoins particuliers. Mais nous, notre approche s'inscrit vraiment auprès des services de garde subventionnés, dit justement des milieux réguliers, l'accessibilité aux services de garde de quartier. Donc, puis on se colle beaucoup au rôle des services de garde dans ce contexte-là aussi d'intégration, donc qui est vraiment de favoriser la participation sociale des enfants. Donc, l'approche veut bien, que l'enfant puisse participer, tout comme les autres enfants, aux activités quotidiennes de son groupe, à la mesure, bien sûr, de ses capacités. Puis c'est là qu'on voit vraiment que des opportunités, justement, de stimulation à travers les activités quotidiennes, à travers aussi les interactions avec les autres enfants.
Êtes-vous beaucoup sollicité? Je pose la question parce que, bon, j'ai une amie qui travaille en garderie sur la Rive-Sud et qui me disait, bon, on a un enfant avec un TSA qui arrive, le parent nous a donné quelques indications, puis on l'a pris, puis c'était tout. Il n'y avait rien d'autre à faire, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de discussion avec un spécialiste. Est-ce que ça se passe souvent comme ça?
Ça se passe souvent, effectivement, que ça arrive. Nous, c'est sûr que c'est les familles qui doivent nous contacter.
Okay.
Mais ça arrive à l'occasion que les services de garde s'informent auprès de nous, nous contactent. Mais nous, la première étape, c'est vraiment le parent aussi qui doit être en accord, justement, que son enfant fréquente un milieu de garde. Donc, je vous dirais que la création du lien dès le départ avec le parent est un facilitateur aussi, justement, ouais. À l'intégration. Là, c'est un facteur, on dirait souvent, qui contribue justement à la réussite. Mais oui, les enfants, ça ne veut pas dire que le milieu de garde est toujours... On a toute la problématique là, qui est souvent amenée de la détection. Donc, les milieux de garde ne sont pas toujours au courant nécessairement des besoins de l'enfant. Parfois, même la famille ne le sait pas non plus parce qu'il n'y a pas de comparatif à la maison avec d'autres enfants. Donc, effectivement, ça peut se faire dans le milieu de garde. Mais oui, les services de garde ont des besoins à ce niveau-là, à savoir comment ça peut être fait. Puis c'est là que se joue tout l'enjeu, je dirais, de... Un peu du rôle. Comment se situe le rôle du service de garde? Est-ce que c'est un rôle qui doit s'approprier plus de stimulation?
Oui. On y reviendra peut-être.
Oui.
Marie-Josée, bon, donc les enfants, en théorie, ont déjà passé par une garderie, en général. Ils ont déjà donc fréquenté des enfants. Il y a des adultes qui sont peut-être pas habitués avec le handicap qui ont vu cet enfant-là. Là, il arrive à l'école.
Oui.
Et là, on parle de service de garde. Est-ce que les parents ont encore des inquiétudes ou tout a été pas mal réglé parce qu'on a déjà fait face à plusieurs situations en CPE?
En fait, oui, les parents ont encore beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'anxiété face à l'intégration dans le milieu scolaire.
Pourquoi?
En fait, c'est qu'ils veulent s'assurer que l'enfant ait toute sa place, justement, dans le milieu de garde, et puis qu'il y ait les adaptations possibles, qu'on puisse placer les adaptations le plus rapidement possible si l'enfant en a de besoin. Donc, c'est sûr que lorsqu'ils arrivent dans un service de garde avec 300 enfants, et que l'enfant a fréquenté une garderie.
C'est si gros que ça, hein?
Oui, oui, oui. Okay, oui.
Parce que moi, j'en ai vu là, quand on va chercher le petit bonhomme, puis t'es pas si nombreux que ça, OK?
Oui, en fin de journée, c'est sûr qu'effectivement, ils sont moins nombreux, mais je peux vous dire que sur l'heure du midi ou le matin à l'arrivée, c'est quand même assez important et surtout impressionnant pour les enfants.
Quel type de formation ont les... Bon, j'imagine on les appelle les éducateurs?
Bien, les éducatrices, oui, en service de garde, exactement, oui.
Donc, la différence entre la formation de ces personnes-là et ceux et celles qui travaillent en garderie ou en CPE?
Mais en fait, je pense que c'est la même chose.
OK.
Oui, c'est le même
cheminement. Elles travaillent juste moins
d'heures. Exactement. Mmh. C'est le milieu qui change et la clientèle aussi, l'âge de la clientèle surtout. Donc, en général, c'est à peu près les mêmes formations.
Est-ce que, et là, je m'adresse à vous deux, est-ce que... Bon, les éducateurs, éducatrices sont quand même formés. Il y a de plus en plus d'enfants à besoins particuliers. Est-ce qu'une fois qu'on sort de l'école, diplôme en poche, on est en général bien apte à prendre soin puis à répondre aux particularités de chacune? Véronique?
Moi, je crois que oui. Comme je le disais tout à l'heure, c'est comment se situe notre rôle si on veut être... dans la formation, on parle du développement de tous les enfants, bien sûr, mais il y a une approche par besoin.
Ouais.
Fait que c'est sûr que si on repose que ben, l'enfant, peu importe s'il y a des besoins au niveau comportemental, des besoins au niveau sensoriel, des besoins autres, ben, on va s'attarder à cet aspect-là dans un contexte aussi du quotidien, du groupe, de l'environnement, des activités. Alors oui, une éducatrice qui est une professionnelle de la petite enfance a les capacités. Puis, davantage aussi, ben, tout au niveau du processus, là, je dirais, là, d'intervention, la base, c'est l'observation. Mmh. Alors que l'enfant présente des besoins particuliers ou non, ben, l'observation aussi, c'est la base pour un peu détecter certaines choses. C'est sûr que peut-être c'est dans les stratégies auprès de l'enfant, mmh. au niveau des interventions directes, que là, on va avoir besoin d'aller chercher peut-être, exemple, auprès de l'intervenant qui est déjà impliqué auprès de l'enfant. C'est pour notre part, souvent, mais ça, on fait référence aux ergothérapeutes, physiothérapeutes, l'éducatrice spécialisée du centre de réadaptation. Mais c'est là aussi qu'on dit que, justement, une des réussites de l'intégration repose sur un travail de partenariat.
Le bassin Exactement. D'éducateurs et éducatrices, bon, on le sait, là, en enseignement, on a une pénurie. Même souvent, les professeurs n'ont pas terminé leur diplôme que déjà ils travaillent ou ils ont un job. Est-ce que c'est la même chose en milieu de garde? Que ce soit en garderie ou même service de garde?
Avec une pénurie, effectivement, qui commence à être tôt sur le marché du travail, oui. Là, peut-être à cet effet, ma référence, c'est qu'on a donné là, une petite conférence dans un cégep, et puis les étudiantes, pour la majorité, étaient déjà à l'emploi dans un milieu
Donc,
de garde.
Donc, les formations sont un peu incomplètes. Pour certaines. Là.
Ça peut arriver, effectivement. Okay. Ça peut arriver.
Marie-Josée, est-ce qu'il y a encore de la résistance ou... On a changé, la société est plus inclusive, plus ouverte.
Elle est définitivement plus inclusive, beaucoup plus ouverte que là, 20 ans, 15 ans. Donc, effectivement, les gens font de plus en plus appel, même à nous, justement, pour apporter un regard différent, une expertise aussi, qu'on puisse pouvoir les accompagner dans leur quotidien. Donc, ils ont à cœur, justement, l'intégration des enfants et ils comprennent que ça fait partie maintenant de leur propre réalité. Et oui, les enfants ont de plus en plus leur place au niveau de l'intégration.
Ça, la grande explication. Est-ce que les budgets suivent? Est-ce que finalement, quand même, là, parce que ça prend parfois un petit peu plus de temps, un petit peu plus d'attention, peut-être faut diminuer les ratios. Est-ce que ça va bien, ça, au niveau
de l'administration? Au niveau même des adaptations. Le personnel est conscient qu'effectivement, certains enfants vont demander un peu plus de support, plus de soutien. Donc, à ce moment-là, ils sont plus en mesure de pouvoir libérer, justement, certaines éducatrices pour accompagner les enfants à défis particuliers. Donc, au niveau des budgets, ils en prennent conscience et on voit les actions aussi.
Terminons avec la maternelle 4 ans.
Oui.
Désolé, Véronique. Jean-Sébastien plaide pour votre cause, mais bon, le temps étant ce qu'il est. De plus en plus, là, on entend la préparation pour maternelle 4 ans, ça va modifier les activités en service de garde et ça va également modifier les activités en garderie. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que pour des enfants à besoins particuliers, c'est une bonne, une mauvaise idée? Est-ce qu'on a besoin de rester plus longtemps en CPE?
Je trouve que c'est encore là, bien... C'est quand même du cas par cas. Chaque milieu est différent, chaque enfant est différent. Même si des enfants ont un même diagnostic, ils sont dans le quotidien, chacun des enfants uniques. Puis des fois, c'est dans la réponse justement à leurs besoins, dans leur service de garde où ils sont intégrés, que c'est là où il faut se questionner. Est-ce que le milieu peut continuer de répondre aux besoins ou non? C'est comme ça, je trouve que la question se pose davantage. C'est à chaque milieu aussi de faire l'exercice. Puis bien sûr, en travaillant, puis en consultant là, les parents aussi, dans leurs attentes aussi, là, face aux besoins
de
leur enfant.
Mais il n'est pas question de donner le choix. Je pense qu'éventuellement, on va commencer à aller à l'école à 4 ans. C'est le souhait du gouvernement en place, non?
Bien, il y a déjà, en tout cas, pour la part en petite enfance, pour les enfants, exemple, qui sont suivis à « Je me fais une place en garderie », souvent, la maternelle 4 ans, là, je dirais celle qui est plus spécialisée, à l'école spécialisée, elle est déjà offerte dans la majorité des secteurs à Montréal pour l'école spécialisée là, pour les enfants handicapés. Donc, déjà là, on le voit souvent, là, les parents se questionnaient à savoir, est-ce que je continue une année de plus, justement, au service de garde? Mmh. Est-ce que je vais à l'école spécialisée? Puis je vous dirais que c'est vraiment chaque milieu fait un peu son exercice. Chaque famille le fait aussi, prend les décisions.
Marie-Josée, un mot là-dessus en terminant?
Bien, en fait, la maternelle 4 ans, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est une bonne idée. L'idée de base était bonne. Donc, ce qu'on veut, en fait, mais l'objectif, en fait, des maternelles 4 ans, c'est vraiment au niveau du repérage. Donc, puis de travailler en amont avec les enfants et les parents, bien entendu. Yeah. Donc, moi, je pense que c'est bien la maternelle 4 ans, mais il faut que ça soit fait d'une façon ludique. Ouais. Les apprentissages, ça doit être fait d'une façon ludique. Et ça, il ne faut pas l'oublier.
Et organisé.
Exactement.
Également.
Exactement.
Véronique Lisotte, Marie-Josée Castonguet, merci beaucoup d'avoir été là. On a couvert pas mal de terrain en 12 minutes.
Oui, quand même.
Merci.
On écoute Boss Gags, Lowdown. Ensuite, on s'intéresse à l'Office du transport du Canada qui nous a annoncé quelque chose d'intéressant il n'y a pas si longtemps. On va en parler avec Monique Beaudoin. Jean-Sébastien place un appel du côté de Gatineau.
You done spend. I swear she must believe it's all heaven sent. Hey boy, better bring the check around to the sad, sad truth, the dirty Lord down. Jones for this, Jones for that. This running with the Joneses, boy, just ain't where it's at. You're gonna come back around to the sad, sad truth, the dirty Lord down. Got you thinking like that, boy.
Bon, Jean-Sébastien a décidé qu'on recommençait, même si je disais « Non, attends, je vais lire mes notes. » Elle est directrice du regroupement des associations de personnes handicapées de l'Outaouais. Elle est également, et surtout aujourd'hui, c'est pour ça qu'on lui parle, membre du Conseil canadien, avec des Canadiens avec déficience. Monique Beaudoin, bonjour.
Bonjour, Luc.
Ça va bien?
Oui, ça va.
Je me posais la question, j'ai vu un communiqué passé de l'OTC, l'Office du transport des transports du Canada, et non du transport des Canada, même si En tout cas, ça, c'est un autre sujet, les Canada. De quoi s'agit-il? J'ai l'impression qu'on veut apporter des changements qui... En tout cas, il y a une consultation qui est en branle?
L'année passée, l'Office du Canada, les Transports du Canada a fait une consultation auprès des Canadiens. Bon, c'est relatif aussi envers la charte, ce qu'on appelle des droits des voyageurs. Et là, on vient de nous présenter un règlement qui est mis dans la gazette, partie de la gazette du Canada.
Okay.
Et ce règlement-là, bien évidemment, vous savez comme moi, on a 30 jours pour réfléchir. C'est suite à des recommandations aussi qui avaient été faites. Pour justement essayer de faciliter les voyages au niveau des personnes handicapées. Et ce règlement-là, ce sont les transports qui sont sous juridiction fédérale. C'est important aussi
de
mentionner.
Oui, oui, oui.
Donc, on parle de transport aérien, transport ferroviaire via rail et aussi de transport maritime.
Quelles seraient les différences si c'était adopté?
Écoutez, le règlement, je l'ai lu. Bon, parce que dans le règlement, ce qu'on dit au début, puis encore là, il y a une petite consultation et il y a des représentants demain qui rencontrent l'Office des Transports du Canada, à laquelle rencontre je vais participer aussi là, par conférence téléphonique. Et on donne le règlement un peu actuel. Qu'est-ce qui se fait? Puis les différences, bien, c'est sûr qu'il y aura plus d'obligations. Mon inquiétude, comment va se faire ces règlements-là et qui va donner aussi du suivi? Et comment aussi ça va se faire avec le fameux projet de loi au niveau du fameux l'accessibilité
C81.
Et aussi, bon, on veut aussi que ce soit aussi arrivé avec la commission aussi des droits de la personne qui a quand même rendu certaines de jurisprudence aussi en matière de transport.
Mais Monique, est-ce que j'ai vu qu'il y aurait des mesures de coercition dans cette réglementation à ceux et celles qui n'obéissent pas aux différentes clauses?
Moi, je vais dire, j'en ai pas vu.
Non, mais il me semble que j'ai vu qu'on voulait en insérer.
On voulait en mettre, des mesures pécuniaires, mais sont quoi les mesures? Ah. On ne les connaît pas.
OK.
Alors ça, c'est sûr que ça va être demandé. Peut-être ce qu'on veut faire aussi, le gros, c'est une personne, un tarif, ce que je viens de dire aussi, alors parce qu'il y a eu des jurisprudences là-dessus. Oui, à l'intérieur du Canada, mais des voies internationaux, c'est sûr qu'il va y avoir encore des négociations qui vont se faire. Bon, comment on s'est appliqué au-dessus de ce règlement-là? Les animaux aidants, ça préoccupe aussi certaines personnes. Alors, en principe, ils sont censés les accepter. Mais là, ils disent dans un petit article, mais si l'animal ne se contrôle pas ou s'il devient agressif, sur quoi on va se baser pour juger ça?
Oui, entre autres. Puis c'est bien Moses de le mettre dehors, sur le bord de la rail, entre Waterloo puis Oakville.
Oui. Bon, on parle aussi, entre autres, de ce projet de loi-là d'accessibilité de site web, d'exposer d'avoir de distance entre l'embarquement et le débarquement, bon, au niveau quand tu arrives dans un transport. Sauf que quand on fait des réservations, et ça fait longtemps que des gens le demandent, est-ce que vous pouvez nous mettre sur notre billet électronique quand on a fait des réservations, comme de quoi on a besoin d'assistance?
Mm-hmm.
Nous autres, on dit que c'est dans le système. Bon, il y a des gens qui ont vu maintenant chien guide, mais c'est pas tout le monde qui le met non plus. Alors, mais on met pas des fois si une personne handicapée aurait besoin d'assistance.
Ça ce serait surtout pour le rail, le ferroviaire, j'imagine, parce que les avions au
le
comptoir...
Les autres sont même plus smart, ils ont même un billet pour les chiens.
Ben voyons.
Alors ça, puis bon, dans l'avion, des fois, on va le marquer sur le billet électronique qu'on nous envoie. Mais bien souvent, c'est une personne handicapée, bon, qui est handicapée visuelle ou qui a un autre type de handicap qui a besoin d'assistance, bien souvent, on ne marquera pas.
Ouais.
Alors, on nous dit que c'est dans le système, mais comment, moi, j'ai la vérification?
Mais c'est drôle parce que ce dont on parle, j'avais l'impression que c'était déjà en vigueur, en ce sens... Ça m'apparaît...
Déjà en vigueur, il y a des choses qui sont peut-être... Bon, la formation, on sait que ça se fait, sauf qu'elle n'est pas obligatoire non plus. Et bien souvent, la formation, ce qu'ils nous disent, le transport, ben, on va passer des vidéos, puis les gens prendront ça sur leur temps de travail. Non, c'est pas sûr.
Ben
c'est pas plus loin que ça. Là. Puis il y a des agences au contrôle de la sécurité du transport. Il n'y en a pas beaucoup de formations qui se donnent. Ils ne savent jamais quoi faire comme ministre, mais ils ne savent pas comment procéder.
Monique, est-ce qu'il y a également peut-être des modifications qui pourraient être implantées dans, disons, la configuration même? Je pense au train où, bien souvent, c'est une personne en fauteuil roulant par wagon, donc tu ne peux pas voyager avec celui ou celle qui voyage avec toi si elle est en fauteuil. Donc...
Ben ça, il devrait mettre des sièges à mobile. La deuxième mère, ça, c'est peut-être une chose. Pourquoi ça se ferait pas qu'on mettrait peut-être pas des sièges à mobile? Je sais que c'est quelque chose qui se parle. Deuxièmement, un gros problème aussi qu'on a, écoutez, le monde est plus grand, puis ce qu'on comprend pas, les sièges, il y a moins d'espace entre les sièges.
Ouais.
Et ça, c'est pour mettre plus de personnes. Bon, puis les prix diminuent pas, là. Quand ils me disent les prix des avions, c'est cher aussi.
Mm-hmm.
Les prix des trains, bon, dépendamment si tu le fais à l'avant, en tout cas, ça s'est rendu toute une... Si tu le fais par Internet, si tu le fais par téléphone, on va peut-être te changer des frais supplémentaires. Ça, j'ai vu ça, les compagnies qui le font. Alors, c'est... Ça, ils n'en parlent pas non plus dans le projet de règlement, là. Alors, si quelqu'un fait une réservation par téléphone, vous verrez, est-ce qu'on peut avoir le même prix? Parce que des compagnies qui chargent plus. Viara, il y a vraiment un système actuellement pour ça. Mais c'est la seule. Donc,
est-ce que C81 pourrait quand même obliger l'OTC à, disons, à travailler plus fort, plus vite, maintenant que C81 est là?
Ben, C81, il est encore au Sénat, il n'est pas encore
adopté. C'est une question de temps, là.
On espère que ça va se faire, parce que je trouve que moi, l'OTC, ça travaille pas vite non plus. Et le C81, ce qu'on se dit, ben, quand on va présenter des plaintes, parce que là, les gens, ils disaient, ouais, c'est une plainte d'accessibilité, vous allez présenter ça à l'agence, on sait que ça donne pas grand-chose, soit le CRTC ou l'Office des transports, peu importe. Mais je veux dire, C81, nous autres, on voulait une place unique où un commissaire aux plaintes recevrait des plaintes, puis il y aurait peut-être des suivis aussi qui vont se faire à l'agence. Puis c'est ce qu'on voit pas des règlements. Qui va faire le suivi de ça? Il y a un commissaire, il y a un mandat. Moi, en tout cas, j'ai rien vu à la date. Ça ne sonnait pas une cloche. Je veux dire, qui va faire tous les suivis? S'assurer que c'est accessible. On va se faire des sondages auprès de la population. On a fait beaucoup de sondages, je pense qu'on a fait. Des consultations aussi. De la formation, on a parlé. Il y a plusieurs sujets qui ont été parlé, les animaux. Bon, mais c'est des suivis. Comment ça va tout s'articuler. La COFAN, entre autres, a présenté plusieurs mémoires, dont le CCD aussi en ont présenté. Je me demande, est-ce que les consultations ont été vraiment tenues compte? Est-ce que ça a été pris en compte et que les recommandations que les personnes handicapées ont faites?
D'appuyer ou de s'assurer que, disons, dans les avions, là, les films soient avec vidéodescription, sinon le film n'a pas le droit d'être diffusé pour personne. C'est-tu exagéré ou c'est quelque chose qui pourrait être...
Ça serait quelque chose, je pense, faisable. Bon, si on le faire, écoutez... Même à date, les systèmes de divertissement sont même pas accessibles là, pour des personnes qui ont une déficience visuelle. Je suis pas sûr, même pour d'autres personnes qui connaissent moins les technologies qui peuvent même les utiliser.
Ouais.
En plus, qu'on nous demande de l'argent, pensez-vous qu'on va payer pour ça? Non.
Non, c'est sûr.
Ça, c'est sûr et certain. Bon, est-ce que les jeunes sont dans ce sous-titrage? Ça, je pourrais pas répondre là-dessus. Ça serait sûrement une bonne question. D'après moi, ils sont sûrement pas tous.
En tout cas, vous allez en savoir davantage demain, ça, c'est sûr. Ça sera un dossier qu'on va suivre. Monique Beaudoin, qui, bon, pour aujourd'hui, on lui parle parce qu'elle est membre du Conseil des Canadiens avec handicap ou déficience, devrais-je dire. Merci, Monique. Nous, après
merci
la pause...
Beaucoup, ça me fait plaisir. J'avais besoin d'autre chose. On est encore là.
Parfait.
Vous écoutez Accès libre.
Aujourd'hui, c'est la fête de mon frère. Mon frère qui est une grande influence musicale. C'est grâce à lui si j'ai autant laissé la musique prendre de place dans ma vie. Alors, je me disais, tiens, des chansons des artistes que j'aurais pas connues si ce n'était pas de lui. Et avant Unité 9, avec la vidéo descriptrice par excellence, David Gates, Laura Lee sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Thank you. Jean-Sébastien, ça fait longtemps que je te demande de la musique avec de l'orgue, du B3, puis comme tu m'en trouves pas, je suis obligé de la fournir moi-même.
Ben là, faut bien que je te fasse travailler un peu, Luc.
Il y a ça. David Gates avec Laura Lee. Emmanuel Orange-Parent, bonjour.
Allô?
Comment allez-vous?
Ça va très bien, toi?
Ouais, merci. Comment ça se termine demain, une T9? Non, avez-vous des clauses de confidentialité? Est-ce que vous êtes obligé de... Est-ce que, ouais, est-ce qu'il y a des clauses comme
bien
ça?
Bien sûr.
Oui, hein?
Absolument, bien okay. Oui, c'est sûr.
Avez-vous le droit d'en parler quand même au bureau, même si... Mais en disant qu'il ne faut pas que ça sorte d'ici? J'imagine.
Tu veux dire entre nous?
Ben oui.
Ben oui, c'est
okay.
Sûr.
OK. OK. Mais quand même, je suis curieux. Bon, on parle à Emmanuel parce que, bon, elle est narratrice senior au Studio Mel. C'est probablement, ben, c'est assurément celle qui a travaillé le plus grand nombre d'épisodes sur cette série-là. Un moment donné, il y a eu des bébés, ce qui fait qu'on s'est éloigné un peu, mais après ça, on est revenu. Et, mais Marie est encore là. Quand Emmanuel est revenu, Marie est en même place. Tout le monde était à peu près à la même place. Ça fait combien de temps que vous avez fait le dernier épisode chez Mel?
C'était la semaine passée.
Ah, c'est aussi récent que ça!
Oui.
OK.
C'est pas très longtemps avant la diffusion.
Et la personne qui a écrit le texte, elle, a eu l'épisode quand? Parce que c'est ça qui est le plus long, là. On a déjà statué là-dessus.
Si je me souviens bien, c'est un maximum, souvent un maximum de 48 heures avant l'enregistrement.
Mais voyons donc. OK.
Oui, c'est rapide. C'est okay. Très rapide. Surtout okay. Des choses qui sont en post-production comme ça. C'est des trucs qui sont en diffusion. Mm-hmm. C'est pas des rediffusions d'anciens shows que ça se fait de façon assez rapide.
Ouais. Ouais. Une des raisons pourquoi, bon, on parle jamais de petits sujets triviaux comme ça, puis je trouvais que l'occasion était belle parce que le Québec, en tout cas, une bonne partie du Québec va s'y intéresser. Plusieurs parce qu'ils vont dire « enfin, c'est fini », et d'autres qui vont dire « ah zut, il va falloir que je me trouve autre chose ». Mais mm-hmm. Qu'est-ce qui a changé entre septembre 2012 et mars 2019? Que ce soit dans ce show-là ou en général dans votre façon de travailler. Tu sais, c'est quand même une période de 7 ans qui est un peu une période ouais. Charnière en vidéo description au Québec.
Absolument. Écoute, c'est toute une question parce que ça fait vraiment, effectivement, 7 ans, c'est long.
Mm-hmm.
Je pense que il y avait peut-être un peu de surdescription okay. Au début. Je pense que c'était un peu à ce niveau-là. Des fois, il y avait un petit peu d'essai-erreur parce qu'on était dans le tout début. Fait qu'on peut-être un petit peu de surdescription plus que maintenant. Puis surtout, ben c'est sûr, si on parle uniquement d'une T9, à partir d'autant d'années, on finit par connaître une série. Fait que là, on s'ajuste, on sait, on connaît les pièces, on connaît l'endroit. Fait que là, on arrive mieux à l'écrit, à naviguer dans le bâtiment, dans les espaces. Puis, on a changé aussi notre façon, si je me souviens bien, de démontrer un peu les écrits.
Oui, c'est ça, le fameux super.
Le fameux super.
Qui n'est plus dit maintenant.
Ouais, on n'annonce plus que c'est un écrit, à moins vraiment d'une exception qu'on pense qu'il soit nécessaire pour la compréhension.
Mm-hmm.
Fait qu'on a, d'après moi, je te dirais qu'on a simplifié.
Il y a encore dans ce qu'on appellerait peut-être chez Ami Télé le panneau, le fameux bumper pour aller à la pause. On a gardé tout le long, disons, un nuage passe au-dessus de la cour ou bien la chaussée mouillée et une clôture. Et, de toute évidence, il y a un choix éditorial là-dedans. Là.
Je pense que ça dépendait. Des fois, on décrivait l'envoi ou le retour à la pause, le retour de pause parce qu'il y avait des choix visuels qui avaient été faits et qu'on avait le temps. Et quand on n'a pas le temps, ben on choisit de ne pas les décrire.
Moi, mm-hmm. Ouais, je pense qu'on ne le fait pas au retour. Je me souviens pas de vous avoir entendu décrire une image au retour.
Oui, c'est arrivé.
Oui, OK.
Oui, c'est arrivé. Mais des fois, peut-être que ma lecture faisait en sorte que ça s'imbriquait dans... Ça s'imbriquait dans le ton qu'on se rendait plus ou moins compte que c'était vraiment une description de bumper.
Ouais,
mais ça mettait le ton pour ce qui suivait.
Emmanuel, bon, c'est un grand rendez-vous. Je dirais même que les 3-4 premières saisons, là, c'était vraiment, le monde était vraiment impliqué. Après ça, on a commencé à dire, ben franchement, à plusieurs occasions. Mais est-ce qu'il y a une pression additionnelle lorsque c'est un grand rendez-vous où on se dit, non, on fait tout de la même façon, on se force, puis c'est normal?
Absolument. Moi, oui, okay. Je ressens pas plus de pression pour un type de show ou un autre. Il y a des niveaux de complexité, tout dépendant des shows qu'on va décrire. Donc, il y a des shows qui sont plus difficiles à décrire, mais c'est pas. On fait tout aussi diligemment d'un à l'autre.
Ouais. Quand une émission se termine, bon, pour qu'est-ce qui se passe chez ceux et celles qui travaillent dessus? C'est sûr que c'est ni la même chose que pour les comédiens ou pour les téléspectateurs. Pour vous, ça veut dire quoi?
Pour nous, ça veut dire, nous en VD, strictement parlant, là, c'est terminé.
OK, c'est juste un contrat de moins, c'est pas comme « Ah, oh, j'aimais ça faire show-là » ou bien…
On peut se dire ça entre nous à l'occasion, mais sinon, c'est celui-là est terminé, on va en avoir un autre.
Oui, oui.
On peut avoir personnellement des petits préférés ou des trucs, mais ça devient vraiment personnel à chacun.
Bien, justement, allons dans le personnel. Ton personnage, y a-t-il un personnage coup de cœur?
Dans Unité 9?
Oui.
Bien, je vais peut-être pas être très originale, mais Jeanne.
OK.
J'aime beaucoup Jeanne, mais peut-être aussi parce que en tant que comédienne, j'ai déjà fait du théâtre avec Ève Landry. Ouais. Je la connaissais personnellement aussi, puis que je trouve que c'est une personne extraordinaire. Donc, c'est sûr que ça a peut-être teinté ou biaisé ma vision.
C'est plate. J'oublie son nom, là, puis je vais le trouver dans 15 secondes. Mais bon, moi, Daniel Proulx, je l'ai trouvé extraordinaire.
Oui.
Ce personnage-là, la façon que c'est joué, le personnage... J'ai vraiment beaucoup aimé. Et, j'ai déjà fait allusion. Je pense que les gens auront compris qu'il y a quelques fois où j'ai fait « Ah, come on! » c'est arrivé? Est-ce que, à un moment, tu sais, mais il ne faut pas que ça paraisse dans la voix, là. Mais est-ce que, justement, comment on fait pour être aussi, aussi crédible quand nous-mêmes, on n'y croit peut-être pas autant? Moi, l'image que j'ai en tête, là, c'est... j'ai ça ici, là, Solange Chrétien, et qui finalement va être la maman de son IPL. Quelles sont les chances que ça arrive, ça, là, dans la vie, là?
C'est sûr que c'est une très, très grande coïncidence, mais ça fait partie de la nature de la fiction. Mais en fait, la question, c'est comment je fais pour
que ça paraisse pas
dans mon ton.
Ce serait drôle, par exemple, un « Ah, oh, come on! »
Mais ça arrive que j'éclate de rire, ça arrive, okay. C'est arrivé pas souvent que je me suis mise à pleurer, je parle pas nécessairement d'Unité 9, mais en général, que je me sois mise à pleurer, puis que j'ai dû, depuis 2006, c'est arrivé deux fois, que j'ai dû arrêter, prendre une pause, puis après ça me calmer, puis recommencer pour pouvoir, parce que là j'étais vraiment trop dedans, puis ça m'avait touchée. Mais sinon, c'est sûr que moi, j'écoute pas le programme au complet. Je saute les dialogues.
Je comprends, mais c'est pour ça que je suis étonné quand même que, malgré toute la mécanique, il y a pu y avoir des moments émotifs comme ce que tu décris. C'est fabuleux.
Oui, mais c'est surtout que des fois, surtout dans des moments dramatiques, parce que souvent, il y a un peu moins de dialogue, donc je suis présente plus souvent, plus longtemps. Fait que j'ai un meilleur sens de toute la scène ou de toute une scène. C'est sûr aussi quand il y a des choses qui touchent ma vie, mettons, un moment entre une mère et sa fille, plus dramatique, mais c'est sûr que j'ai plus tendance à penser à ma fille. Ouais. C'est arrivé aussi dans des comédies ou des stand-up comiques que j'ai décrit, puis que tout à coup une blague me faisait vraiment rire, puis que là j'avais le piton collé, puis j'avais de la difficulté à recommencer.
Mais c'est intéressant.
Ça arrive.
Puis on termine là-dessus, mais c'est intéressant ça, parce que c'est peut-être là, lorsque le narrateur se permet d'écouter ou se permet de comprendre, mais au-delà de comprendre, dans le sens de vivre l'émission, il y a plus de chances que le ton soit complice avec l'action plutôt qu'une certaine neutralité que l'on entend chez certains. Il y a quelque chose là. Mais en tout cas, merci pour les 7 ans. Merci à toi et aux autres.
Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Puis j'adore ça et j'espère encore continuer longtemps.
Ben, de toute façon, là, on a hâte à District 31 l'année prochaine. J'ai pas encore lu que c'était renouvelé, mais je peux pas croire qu'il arrêterait ça.
Ah, j'ai aucune idée.
Amusez-vous bien, merci beaucoup. Nous, on va causer Victoriaville avec Guy Huard. Mais d'abord, c'est quoi, Diane Tell, Jean-Sébastien?
Oui, monsieur.
Bon, allons-y pour Diane Tell. Je pense que c'est la première qui a scaté en français québécois. Peut-être que je me trompe.
Tout est flou, cet avion qui s'en va, je ne sais où. Il met du sous après ce long voyage. Quand j'aperçois ton doux visage, ton nez nuage, tout à coup, je sens mon cœur s'agiter comme un fou. Me rappelant que je m'envole vers toi. Dans un instant, je serai là. Je serai là tout près de toi. J'ai besoin d'un homme sûr qui veillera sur moi ou me conduira à l'aventure.
Le chemin qui mène vers toi. Ça, c'est de Entre nous, album de 79. Guy Huard, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous? Vous qui êtes un des chanceux qui vivait à Victoriaville. Je trouve ça intéressant parce que on parle toujours en bien de Victoriaville. C'est presque la Côte d'Azur du handicap au Québec. Et pourtant, lorsque je lis sur vos activités, je me rends compte que rien n'est parfait nulle part.
Exactement, sauf que il y a des bonnes nouvelles dans le sens que tout n'est pas noir ni blanc. Écoutez, il y a eu des petits problèmes avec les feux sonores, ouais. Sauf que là, je dois quand même dire d'entrée de jeu que la ville est très ouverte, a un préjugé favorable pour l'inclusion. Puis je réalise qu'on est quand même, oui, on gagne des prix au niveau de l'accessibilité, ouais, ouais. Tout ça. Puis on a quand même 5 ou 6 feux sonores pour la grosseur de la ville, ce qui est pas banal. Par contre, là, il y a peut-être eu un petit laisser-aller temporaire. Puis donc, moi, je suis allé au conseil de ville et là, les élus ont pris ma demande très au sérieux. Et puis là, je vous dirais que ça a pris le bon chemin, là. Ça a pris la bonne direction. Et déjà, ils ont commencé à réparer les feux sonores qui étaient défectueux.
Mais Guy, si vous avez été obligé d'aller au conseil de ville, c'est que, disons, appeler au... Chez nous, à Montréal, on appelle ça le 311, c'est-à-dire oui. Notre secteur, pour dire ça fonctionne pas, c'était pas suffisant?
Non, c'était pas suffisant. Puis ce que j'ai compris, parce que j'ai eu une rencontre avec les employés de la ville suite à mon intervention... Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a plusieurs services qui s'occupent de ça, hein? Les travaux publics, mmh. la circulation. Et avant que tous ces gens-là soient arrimés pour faire la job, ce que j'ai compris aussi, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'ils ont de la misère à avoir de la main-d'œuvre spécialisée et compétente dans ce domaine-là. Ce qu'on m'en a dit, alors ça expliquerait les délais là, qu'ils ont. Mais là, je pense que j'ai donné un coup de barre. Et puis, je pense qu'ils vont être comme plus attentifs, là, plus centrés là-dessus. Puis, je pense qu'en accessibilité, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'accessibilité au niveau des fauteuils roulants.
Architectural, oui.
Architectural, tout mm-hmm. ça. Mais au niveau de la déficience visuelle, c'est moins un réflexe, là. On est peut-être moins nombreux que les gens à mobilité réduite. Fait que c'était peut-être moins un réflexe. Mais ça a pris la bonne direction. Je suis content parce que déjà, ils ont commencé. Puis, les élus sont très, comme je vous dis, à notre écoute. Sont très fiers de l'inclusion. Ouais. Pis de la... Parce qu'on a été la première ville quand même à avoir une politique d'accessibilité universelle. Mm-hmm. Fait qu'au moins, les élus sont à l'écoute puis ils sont réceptifs. Ils ont un préjugé favorable pour ça. Mais c'est sûr que, comme on dit, personne n'est parfait. Mais là, ça a pris la bonne direction.
Et déjà, il y a amélioration parce que, bon, je pense que l'article date de... Vous êtes allé au conseil de ville, quoi, il y a à peu près 3 semaines?
Environ, oui.
Bon, puis déjà, ça bouge. Ici, là, oui. 3 semaines, là, c'est oui. Il ne se passe rien en 3 semaines, là, ici. Là. Alors, c'est...
Puis le maire, André Balavance, il était très désolé que ça arrive. Ouais, puis il m'a dit, soyez assurés, M. Huard, qu'on s'en occupe. Puis qu'on va contacter les bonnes personnes pour que ça bouge
mieux.
Dans le bon sens.
Tant mieux, tant mieux. On espérait, Guy, vous parler la semaine dernière, lundi dernier, mais vous étiez à donner une formation sur l'accessibilité universelle dans les commerces. Parlez-moi un peu de comment ça fonctionne.
Bien, c'est-à-dire que quand on vous parlait d'inclusion pour la ville, c'est pas dans les commerces, c'est les employés de la ville qu'on forme en accessibilité universelle. Okay. Fait que c'est pour ça que je vous dis qu'on est quand même en avance là, à Victoriaville parce que tous les employés ou la plupart des employés de la ville vont recevoir 2 ou 3 formations mm-hmm. d'une journée dans la plupart des problématiques là, de situation de handicap. Donc, visuel, auditif, mobilité réduite, etc. Ça que moi, j'ai été demandé, étant donné que je vis la problématique visuelle, de donner une formation avec mon chien guide, puis d'expliquer là, à plusieurs groupes là, d'employés, autant les gestionnaires, les employés des travaux publics, sur les bonnes attitudes à avoir avec les personnes en situation de handicap. Donc, c'est très... C'est une belle ouverture de la ville quand même.
On vous a contacté parce que vous êtes le petit fatigant dans les carnets ou parce qu'on a fait affaire à un organisme et vous travaillez avec cet organisme-là?
Ben oui, c'est ça. Ils ont fait affaire avec un organisme de personnes handicapées dont je suis membre.
Okay.
Puis moi, j'ai collaboré aussi à la politique d'accessibilité. Donc, je suis impliqué dans le communautaire. Je suis impliqué dans toutes sortes de choses. Alors, souvent, on me demande là, quand il y a des choses comme ça... participer à ça, puis je le fais de façon volontaire, parce que j'aime que les choses avancent.
Oui, ben j'ai remarqué d'ailleurs que vous aviez milité pour les chiens d'assistance de l'an passé, je crois. C'était quoi la nature de ce dossier-là?
Bon, effectivement, puis ça va moins bien. Okay. On a moins de collaboration de ce côté-là. Écoutez, moi, ça fait mon deuxième chien guide que j'ai. J'ai des chiens guides depuis 2004. Puis, ça fait au moins 15-20 ans que l'allocation que la RAMQ donne, l'assurance maladie donne, n'a pas été indexée. Donc, c'est le même montant que là, 15-20 ans. Fait que moi, en 2010, mon chien a commencé à être malade puis à me coûter très cher, puis il devait prendre des médicaments qui coûtaient 100 $ par mois. Et j'ai commencé en 2010 à questionner la RAMQ. Ils m'ont dit non, il n'est pas question d'augmenter cette rente-là. Et en 2015, en 2012-13, là, j'étais 2 ans, pas de chien. En 2015, je vais me chercher un autre chien guide. Et là, ma grande surprise, c'est encore la même rente qu'on donne pour les chiens guides. Ouais. Alors là, j'ai commencé à me plaindre à la Régie d'assurance maladie, commissaire aux plaintes. Je suis allé au protecteur du citoyen. Je suis allé me plaindre directement au ministère de la Santé et Services sociaux.
Pour informer l'auditeur, là, c'est quoi? C'est autour de 900 $ je pense, par année?
Il donne 1028
$
par année. OK. Oui. Et ça coûte minimalement le double pour les frais d'entretien du chien.
Mais surtout s'il est malade. Parce que, bon, pour en avoir eu 4, si le chien va bien, on s'en tire avec la nourriture, puis, bon, trouver un vétérinaire où ses vaccins sont moins coûteux. Mais lorsque il y a maladie, là, c'est vrai que ça devient inquiétant.
Oui. Puis même actuellement, moi, mon chien est très en santé, puis, puis j'arrive pas avec ce qu'il donne. Ça me coûte minimalement le double de ce que la RAMQ me donne.
Okay.
Parce qu'écoutez, il donne 1028 $, ça me coûte 700 $ environ juste pour la nourriture.
C'est ça, oui.
Parce que si vous avez eu des chiens guides, on ne donne pas de la nourriture bon marché
non, c'est
à un chien guide. Là.
Oui, oui. Puis bon, le verre du cœur. Puis.
Fait que là, j'ai passé à TVA, mais à Radio-Canada Estrie. J'ai passé à CBC, la Radio-Canada anglais, en septembre dernier. Les clubs Lyon aussi, moi je suis membre Lyon à Victoriaville. Les clubs Lyon ont fait des pressions. Il doit y avoir à peu près 25-30 clubs Lyon qui ont envoyé des lettres aux députés de leur région respective et au ministère de la Santé et Services sociaux. On nous avait presque promis qu'au nouveau budget, il y aurait une hausse, une majoration des sommes prévues pour ça, puis on n'a rien eu.
Non, il n'y a pas eu d'écho là-dessus.
Ça fait qu'il y a des milliards de surplus, mais les aveugles, on s'en occupe pas encore. Ouais. On a été très déçus. J'ai réécrit au ministère de la Santé et Services sociaux, d'ailleurs, quelques jours après le dépôt du budget.
Il n'y a pas juste les propriétaires de chiens de soutien. On disait il n'y a pas si longtemps ici que le programme d'accessibilité domicilier n'a pas bougé depuis plus de 20 ans. C'est encore un maximum 16 000. Puis on sait que les travaux, les matériaux, les ouvriers, si tu veux modifier ta maison pour pouvoir circuler dedans, en 20 ans, l'augmentation, c'est faramineux. Là. Donc, il y a beaucoup. Au niveau des allocations, il y a un gros manque à gagner.
Oui, c'est clair que là, il y a un manque. Puis les libéraux, pendant 15 ans, s'en ont pas occupé. On espérait que la CAQ fasse mieux, mais écoutez, j'ai encore de l'espoir. Là. D'ici au printemps, j'espère qu'il va y avoir une majoration. Sinon, ben on commence. Je travaille avec d'autres personnes d'handicapés visuels, là, de l'Estrie, de Grand Bay, Coaticook. Et là, on commence à se dire qu'on va réfléchir à d'autres options. Là, si on n'est pas entendu, là, on commence à imaginer d'autres façons de se faire entendre. Là.
Allez sur la 10 avec vos chiens, ralentissez le trafic, ça marche aujourd'hui, c'est ça là que ça fonctionne bien. Merci beaucoup, Guy Huard, là, je sais pas.
Bon, ça m'a fait plaisir.
Jean-Sébastien, on est passé au travers encore.
J'en doutais pas.
Moi non plus, j'aime ça faire ça. Vraiment, j'aime ça faire ça. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Si vous avez des suggestions, si vous avez des commentaires. Un gros, gros, gros merci à Christiane qui, finalement, là, elle a fait 90% du show. Bonne semaine, tout le monde.